Chapitre 6. La foule, bureau de police. Médor s'appelait de son nom Claude Morin. Il n'en était pas plus fier, attendu que cette étiquette lui avait été fournie par l'administration de l'hospice des enfants trouvés. Il était bon chien de berger. Peut-être n'aurait-il point su faire autre chose. On lui donnait chez Mère Noblet 15 sous par jour et le déjeuner. Le soir, il travaillait en chambre et gagnait encore 5 sous à piquer des bretelles. C'était juste son loyer. Sa chambre lui appartenait en propre, il louait seulement le terrain, au 6e étage d'une maison de la rue Moreau, entre 2 toits, dans les plombs. Sa chambre était une ancienne stalle d'écurie des arènes nationales où il avait été balayeur. Il l'avait eue à bon compte lors de la vente. Il l'avait montée, couverte, installée, meublée, cramponnée. Il y tenait, ainsi qu'à son ménage, comme tout homme établi tient à son avoir. Quand on parlait devant lui d'embellir la ville et d'exproprier les immeubles, il devenait sombre et avait peur d'être démoli. On ne lui connaissait d'amitié que pour sa chambre et il ne souriait jamais qu'à petite reine. Lorsqu'on avait fait allusion tout à l'heure à la femme inconnue qui s'était offerte obligeamment pour tourner la corde, Médor avait été frappé d'un trait de lumière. Ce n'était pas assurément un observateur, mais il avait l'instinct, et au moment où il prit sa course à travers la foule, il était sûr de tenir la piste de la voleuse d'enfants. La figure de cette femme se représentait à lui de plus en plus suspecte à mesure qu'il interrogeait sa mémoire. Médor ne savait même pas qu'on pût se faire une tête, mais les tons bizarres et violents de ce teint, les rides farineuses, tout ce que le voile du béguin laissait entrevoir, lui sauta aux yeux par souvenir, bien mieux que dans la réalité elle-même. Il avait son idée. Les factionnaires avaient pu ne pas remarquer l'enfant, mais cette caricature n'avait pu passer inaperçue. Il fit le tour des grilles, à toute course, demandant sur son chemin si l'on n'avait point vu une fillette, jolie comme les amours, avec de grands cheveux bouclés, sous son petit toquet à plumes, et conduite par une manière de folle qui portait un bonnet de béguine auquel pendait un voile bleu. Ces questions restèrent longtemps sans réponse, mais enfin, à la petite porte donnant sur la rue Cuvier, derrière les bâtiments de l'administration, un brave soldat du centre se mit à rire dès les premiers mots de la phrase, répétée déjà tant de fois. « En plus, qu'elle est cocasse, la bonne sœur, répondit-il, et qu'elle bourrait la petite de biscuits. » Médor s'était arrêté, haletant. « Par où a-t-elle pris ? » interrogea-t-il. Par un fiacre qui passait et qui a remonté au grand trot vers la place Saint-Victor, et qu'il y a eu quelque chose de rigolo, par un particulier bien mis et beau linge, avec une peau de basane mulâtre, approchant et une barbe noire comme du cirage, qui a fait mine de lui barrer la route. Il a regardé l'enfant, mais la vieille lui a rivé son clou en 2 temps, et puis elle a tendu la main, qu'elle avait l'air de se moquer de lui, disant « Payez-moi mon dû !» Il a tiré sa bourse, comme quoi ça me paraît que c'est lui qui a soldé le fiacre avec son or. Le soldat continua de rire et tourna le dos, se disant à lui-même « Il y a des personnes farces tout de même ». Médor resta un instant pensif. Suivre le fiacre n'offrait aucune chance. Comment savoir la route qu'il avait prise en arrivant au bout de la rue Cuvier? Médor se remit à courir et revint au bosquet pour chercher conseil. En arrivant, la première personne qu'il vit fut l'homme à la peau bronzée, dont le regard était fixé sur la gloriette par une sorte de fascination. Toute la personne de cet homme se rapportait d'une façon aussi frappante au signalement donné par le soldat que Médor n'arrêta même pas son élan et tomba sur lui comme on s'empare d'une proie. L'homme n'essaya pas de résister, le rouge lui monta au visage et ses yeux, qui exprimait l'étonnement de quelqu'un qu'on eût éveillé en sursaut, interrogèrent la foule avec une sorte de timidité sauvage. La foule, Dieu merci, répondit à ce regard. L'incident lui plaisait au suprême degré. C'était une péripétie nouvelle apportée au drame et qui poussait la curiosité de tous jusqu'à la fièvre. Notez que cette curiosité endémique de nos Parisiens n'empêche ni la compassion ni aucun bon sentiment. En nul autre pays du monde, les chagrins d'un héros de mélodrame ne font couler tant de larmes qu'à Paris. Seulement, en place publique comme au théâtre, l'émotion a son côté amusant qu'il est permis de cueillir. Chacun regardait l'inconnu et s'étonnait de ne l'avoir pas encore remarqué. C'était bien vraiment une figure fatale, comme disaient volontiers les romans de cette époque. Sa tête ne ressemblait point à celle qu'on rencontre du matin au soir dans la rue. « Mère Noblet, dit la première, il a l'air méchant, c'est un étranger. » « Et surtout calé, ajouta une dame sans cavalier, dont l'accent n'avait rien de malveillant. « Un beau mâle, oui da, fit observer une autre personne du sexe qui avait dépassé la quarantaine. « Ses yeux font peur, murmura une jeune ouvrière. Une bonne d'enfants m'ajouta, dire qu'on rencontre de cela à Paris. » Les petits n'étaient pas éloignés de le prendre pour l'ogre et le regardaient avec de grands yeux épouvantés. Il n'y avait, pour ne point le voir, que Lily, la pauvre créature. Elle restait affaissée sur elle-même au pied de son arbre, les yeux fixés sans lumière. Sur ses lèvres qui remuaient lentement, sans produire aucun son, un nom se devinait toujours le même, le nom de sa fille, Justine. Le cercle s'était resserré autour de l'inconnu qui venait d'abaisser les deux mains de Médor en disant avec un fort accent étranger que personne n'avait jamais entendu « Laissez-moi, je ne m'échapperai pas. » Sa voix était sourde et grave. « Pas de danger qu'il s'échappe !» cria un gamin, moins haut qu'une botte. « On veille au grain par ici. »« Son affaire est bonne !» ajouta Mère Doblet. « Il donnera des dommages et intérêts. » « Que voulait-il faire de l'enfant ?» demanda un naïf au second rang. « On en a besoin quelquefois comme ça, dans les grandes familles, » répondit d'un air important la jeune ouvrière, « pour la chose des successions. »« Ou perpétuer le nom des nobles, » fit la voisine, « c'est connu. »« Sans compter, » insinua la dame sans cavalier, « que la petite mère est jolie comme un cœur et qu'on a pu subtiliser l'enfant pour faire suivre la mère. » Cette idée eut un succès. Elle produisit un mouvement dans la foule qui eut envie d'applaudir. Désormais, l'étranger qui avait la barbe trop noire, atteint et convaincu d'être un traître de mélodrame, était percé à jour. Dans la foule, on cria « Ici, les gardiens !» et d'autres « Ah, voilà les sergents de ville !» Il était temps d'arrêter ce coupable, et contre l'ordinaire, les sergents de ville avaient aussi du succès. L'opinion publique est sujette à de singulières erreurs. Elle accuse volontiers de brutalité ce corps utile des sergents de ville, dont le costume sert de modèle aux tailleurs de l'école polytechnique. Je parie qu'en prenant au hasard un sergent de ville et en mettant un œuf dans sa poche, vous retrouverez l'œuf intact au bout de 8 jours. C'est l'état paisible par excellence, pratiquant avec religion la philosophie péripatéticienne et dévot à la maxime « festina lente ». Ils arrivent toujours quand la roue a passé sur la jambe de la vieille dame renversée. Jamais on ne les voit qu'au moment où la rixe s'apaise, et je sais beaucoup de fâcheux esprits qui demanderaient leur suppression s'il n'était bien doux de les contempler, arpentant le trottoir, causant 2 par 2, 3 par 3, de choses honorables, et présentant l'image consolante de ce suprême farniente qui est la récompense des justes aux Champs-Élysées. Les sergents de ville arrivaient, fidèles à leur devise, mieux vaut tard que jamais. Ils ne se pressaient pas, de peur de casser l'œuf. Derrière eux venaient 2 hommes qui n'avaient pas d'uniforme, mais que personne n'eût pris pour vous ou moi. Une partie de la foule courut à eux et les entoura pour les mettre au fait de l'affaire. Elle était bien simple, il y avait là un malfaiteur, anglais, russe, ou de quelque pays suspect, qu'on venait de prendre en flagrant délit de vol d'enfants. C'est-à-dire, non pas lui, mais sa complice, une femme déguisée en sœur grise, à qui il avait donné, devant témoin, une bourse pleine d'or. Peut-être est-ce ici la raison qui pousse la prudence des sergents de ville jusqu'à l'immobilité. Ils savent de quelle manière Paris s'y prend pour raconter une histoire. D'un air sérieux mais sceptique, les 2 fonctionnaires abordèrent l'attroupement. Ils avaient les mains derrière le dos, ce qui fait partie du fourniment. À leur suite marchaient toujours les 2 hommes en bourgeois. vingt voix dirent avec colère « Ah, c'est ça, ne vous pressez pas, l'enfant voyage pendant ce temps-là. Allons, pas de faiblesse, parce qu'il s'agit d'un milord. Et qui gagnera mon pain si je n'ai plus la confiance des familles ?» ajouta Mère Noblet. « Le voilà, empoignez-le » Médor étendit sa main crispée en disant ah, « Devant Dieu, je jure que c'est lui !» Les deux sergents de ville écartèrent un peu trop sans façon ceux qui gênaient leur passage. Dans ces choses accessoires, il est permis de leur conseiller plus de moelleux. Quand ils furent en face de l'inconnu, l'un d'eux lui dit tranquillement « Vos papiers, s'il vous plaît. »«
Qu'est-ce que ça fait, les papiers » cria-t-on de toutes parts. « Ils en ont tous des papiers. L'enfant, l'enfant !»
Celui des deux sergents de ville qui n'avait pas parlé répondit « Donnez-nous la paix, et au large, circulez !» Il y eut un grand murmure, mais le sergent fit un pas en avant et la foule recula. Ce mouvement mit à découvert la Gloriette, toujours accroupie et n'ayant aucune conscience de ce qui se passait autour d'elle. Médor, qui n'avait plus à garder l'accusé, vint à elle et essaya de la relever. Elle lui sourit sans rien dire, faisant signe qu'elle voulait rester ainsi. Médor s'agenouilla auprès d'elle. La foule ne donna point attention à cela. Tous les yeux étaient sur le Milord, titré ainsi par l'animadversion publique, au grand mépris de toutes les nations acceptées, sur la couleur du teint et du poil des Anglais. La foule espérait qu'il n'avait point de papier, car au lieu d'atteindre son portefeuille, le Milord, d'un air embarrassé, semblait chercher des paroles d'explication. Le sergent de ville, défiant par devoir, mais poli à cause du beau linge, tendait la main d'un air calme et fier.
« C'est un faux milord, » suggéra le gamin, « il n'a pas sur lui la preuve de sa naissance. »«
Il n'en manque pas, » soupira la dame isolée, « qui font de la poussière et qui n'ont rien sur eux. »«
Voilà plus de 20 ans que je fais les promenades, avec succès, »
disait cependant Mère Noblet au second sergent de ville.
« Un temps qui fut, on aurait serré les pouces de ce polisson-là dans un étau de taillandier jusqu'à ce qu'il ait dit « Où est la petite ?» et payé gros pour la mère, qui me devait bien quelque chose en ce cas-là, car elle est cause que je vais peut-être fermer boutique.
« Oh oh !» fit l'assistance en resserrant le cercle. « Attention, le voilà, qui met la main à la poche. Il a son passeport. » L'étranger, en effet, déboutonnait lentement le revers de sa redingote noire. Il prit dans la poche de côté un portefeuille où il choisit, parmi plusieurs papiers, une simple carte de visite qu'il tendit au sergent de ville.
« Oh, voilà une belle preuve !» grondèrent quelques voix.
Mais à la vue du nom gravé sur la carte, le sergent de ville ôta son tricorne comme si c'eût été un simple chapeau bourgeois. Les deux hommes sans uniforme qui se tenaient à quelques pas échangèrent un regard.
« C'est sûr qu'il a l'air de quelqu'un comme il faut, » murmura la dame sans cavalier.
« Avez-vous jamais vu ?» gronda la bergère au comble de l'indignation. « Il ne manquerait plus que de lui faire des excuses. »
« Monsieur le duc, » dit en ce moment le premier sergent de ville, d'une voix basse mais distincte, « je vous demande pardon, j'ai dû accomplir mon devoir. »
Voilà, conclut amèrement la mère Noblet, ni vu ni connu, et moi, mon commerce est flambé, ah, les riches!
Une huée bruyante s'éleva de la foule.
L'enfant, l'enfant, l'enfant! Criait-on.
La Gloriette mit sa main sur l'épaule de Médor et lui demanda, quel enfant? On eût dit qu'un travail se faisait en elle et que son intelligence allait s'éveiller. Médor ferma ses gros poings et sa voix domina tous les autres bruits.
« Je n'ai pas menti, dit-il. L'homme a causé avec la voleuse d'enfants. Ah, si on le laisse s'en aller, je le suivrai, et je l'aurai. »
La Gloriette répéta, en regardant dans le vague, « La voleuse d'enfants. » Puis elle devint attentive, et sa pauvre jolie tête se redressa dans une pose inquiète. Les groupes s'agitaient en colère. On se montrait au doigt à l'étranger qui reboutonnait sa redingote paisiblement. Madame Noblet ordonna à son troupeau de se mettre en rang et dit à Médor avec rudesse « À ton ouvrage, toi !»«
Non, repartit Médor, celle-là est trop malheureuse, je reste avec elle. »«
Ah !» fit la Gloriette qui l'interrogea d'un regard éperdu, « est-ce moi qui suis trop malheureuse ?» La bergère s'élança vers les sergents de ville pour faire respecter son autorité, mais ceux-ci, qui jugeaient l'affaire finie et bien finie, se mirent dos à dos pour prononcer le commandement sacramentel.
« Circulez !»« Mais l'enfant, l'enfant !» répéta l'assistance.
Médor ajouta « Et la mère ?»« Où est la mère ?» demanda un des sergents. Personne ne répondit parce que la Gloriette venait de se mettre sur ses pieds. Elle semblait attendre que quelqu'un parlât. Le sergent la devina et marcha vers elle. « Vous allez suivre ces messieurs au bureau de police de votre quartier, » lui dit-il avec douceur en montrant les deux agents. « C'est heureux qu'ils se soient trouvés à la gare. Vous ferez votre déclaration. S'il y a des témoins, ils déposeront. » La Gloriette avait les grands yeux fixés sur lui. « C'est donc moi, » murmura-t-elle, « tout ce monde est ici pour moi, et on m'a volé ma petite reine. » Médor la prit dans ses bras pour l'empêcher de tomber à la renverse. Tous les bruits étaient morts comme par enchantement. Un silence profond entourait cette scène. L'angoisse des mères est contagieuse entre toutes. On voyait un large cercle de figures attristées dont l'expression avait quelque chose de respectueux. « Je l'ai quitté ce matin, » poursuivit la Gloriette. « Chaque fois que je la quittais, j'avais peur. Il me semblait que j'étais trop heureuse et qu'on me prendrait mon bonheur. J'ai pensé à elle tout le long du chemin, à elle, rien qu'à elle. Jamais je ne pense qu'à elle. Êtes-vous bien sûr qu'on me l'ait volée? Pourquoi me l'aurait-on volée? À quoi peut-elle servir, puisqu'ils n'ont pas sa mère ?» Elle disait cela lentement et presque à voix basse, mais chacun l'entendait, même au dernier rang de la foule. Deux grosses larmes, les premières qu'elle eût versées, coulaient sur sa joue pâle. « On la retrouvera, » insinuèrent quelques voix compatissantes. La Gloriette se raidit dans les bras de Médor et ses yeux lancèrent un grand éclair, mais sa voix resta faible et brisée, tandis qu'elle disait « Que veut-on pour la retrouver? Je donnerai tout ce qu'on voudra, mon sang, ma chair, les ongles de mes doigts, et mes cheveux, et mes yeux, et mon âme !» « En route !» ordonna un des deux hommes sans uniforme, qui ajouta entre ses dents « Ça vous retourne, parole d'honneur !» Ils se dirigèrent, lui et son compagnon, vers la sortie. On ne les regarda pas. Le sergent de ville dit « Celle qui crie, ce n'est rien, mais de l'entendre plaindre si doucement, j'en ai le cœur étouffé !» Et c'était l'impression de tout le monde. Désormais, ce n'était plus l'émotion théâtrale, la curiosité elle-même tombait devant cette déchirante douleur. La foule était comme la jeune mère, elle avait le cœur étouffé. L'étranger que le sergent de ville avait appelé Monsieur le Duc, et qui avait excité un instant les violents soupçons de la cohue, n'avait point profité de la liberté qui lui était donnée. Il restait toujours à la même place et toujours regardant. Au moment où l'on se mettait en marche, il fit quelques pas vers le groupe principal et aborda les représentants de l'autorité. « Ce jeune homme m'a dit vrai, » prononça-t-il, avec une extrême difficulté en désignant du doigt Médor. « J'ai vu la voleuse d'enfants, je lui ai parlé. Conduisez-moi chez le magistrat. »« Vous êtes un brave homme, vous, » s'écria Médor chaudement. Il traduisait ainsi, avec tant de naïveté, la surprise qui était sur tous les visages, que l'étranger eut un grave sourire. « Oui, » répondit-il, « je suis un brave homme. » Quand il souriait, sa physionomie était remarquablement belle. Il prit avec les sergents de ville la tête de la nombreuse colonne qui descendait vers la place Valhubert. Les opinions de la foule sont changeantes, elles les femmes. La foule n'était pas éloignée maintenant de voir en cet homme, atteint et convaincu naguère de vampirisme, un héros de roman ou même un ange sauveur. Le premier sergent de ville aidait Lily à droite pendant que Médor la soutenait à gauche, et puis venait la bergère avec son troupeau, puis la masse du public, qui n'avait pas sensiblement diminué. La bergère faisait remarquer, autant qu'elle le pouvait, le bon ordre de son petit bataillon. Comme on dépassait la grande grille, Lily, qui en apparence était restée insensible depuis ses dernières paroles, étendit ses bras vers la marchande de jouets et de gâteaux établie à droite de l'entrée, et un profond sanglot souleva son sein. « Est-ce vrai vraiment ce qu'on dit ?» demanda la marchande. « A-t-on détourné ce joli bijou de petite reine ?»« C'est vrai, » balbutia Lily, « vrai, vrai. Hier, elle s'est arrêtée ici, elle a voulu une bouteille de dragée. » Et tout ce qu'elle voulait, elle l'avait, dit la marchande. Quand vous n'aviez pas d'argent, je vous ai crédit de si bon cœur. Je l'ai quitté toute la moitié d'un jour, et on me l'a volé. Ah, c'est vrai, vrai, vrai. Ses larmes coulaient avec plus d'abondance, et sa parole prenait plus de volubilité. La fièvre venait.
Allons, du courage, dit le sergent. Toute la moitié d'un jour, répéta la Gloriette. Chaque minute peut apporter un malheur. Ah, celles qui sont riches, celles qui n'ont pas besoin de donner leurs petits à garder.
C'est ça, gronda Mère Noblet, en passant à son tour devant la marchande. C'est à moi la faute. Elle va me demander une rente. Je connais mon affaire. Et la maison est abîmée. Parce qu'on laisse entrer des communiantes et des collèges et des tourloulous. La misère. Et le dénourrisse, la grêle. Il sera bientôt permis d'amener des chiens enragés. Va comme je te pousse. Ah, ce n'est pas moi qui défendrai le gouvernement si on fait des barricades.
Au marché. De tous côtés, les gens accouraient sur la place pour voir. Voir la passion des grands et des petits. Et ils voyaient Lily aller échevelée, admirablement belle dans ses larmes. Et dès qu'on avait prononcé le nom de Petite Reine, ils comprenaient. C'était le quartier. La plupart connaissaient Petite Reine. Vous eussiez dit un deuil public. Il y en avait qui pleuraient, des femmes, des hommes aussi, quand Lily les regardait de ses grands yeux baignés et en gémissant. « Je ne l'ai plus, ils me l'ont volé, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » À la tête du pont d'Austerlitz, la Gloriette s'arrêta brusquement. Elle se dégagea des deux bras à la fois et essuya ses yeux. Là, le terrain se relève. En se retournant, elle put voir le jardin des plantes par-dessus le flot des têtes qui l'en séparait. Elle murmura, perdant une idée qu'elle avait. « Tous ceux-là sont ici pour elle, on l'aimait bien. Ah, s'ils la cherchaient tous comme je chercherais, le jour, la nuit. » « Moi, je chercherai, » prononça une voix à son oreille, « le jour, la nuit. » Elle regarda celui qui parlait. La pauvre figure de Médor était toute bouffie de larmes. « Demain, dit-elle, tous ceux-là auront oublié. » « Moi, interrompit résolument Médor, je n'oublierai jamais. » Lily, au lieu de remercier, haussa les épaules comme un enfant à qui on promet une chose impossible. « Vous verrez, » dit Médor, avec simplicité. Mais l'idée de la Gloriette lui revenait. « je veux retourner, » s'écria-t-elle. « On n'a pas cherché. Le jardin est grand et elle est si petite. Pour la cacher, il suffit d'une touffe de fleurs. » « Aujourd'hui, tout le monde est avec moi. Personne ne refusera de chercher pour l'amour de moi, mais demain... » Et puis, s'interrompit-elle, résistant à ceux qui la soutenaient, « j'ai oublié quelque chose là-bas. Vous ne me croyez pas, mais je vous assure que j'ai oublié quelque chose. Écoutez, Mère Noblet me montrera l'endroit où elle l'a vu pour la dernière fois, et je retrouverai la place de son petit pied chéri, et j'emporterai la terre, et je l'aurai, et je la garderai. » Un sanglot la suffoqua. « Voyons, voyons, » dit le sergent, dont la paupière battit. Et comme Médor faisait mine de se révolter, il ajouta, « Bonhomme, j'approuve ta sensibilité, mais le temps presse. Monsieur Picard et Monsieur Rioux me font signe là-bas. J'ai idée qu'ils veulent battre la foire au pain d'épices, dont c'est le dernier jour, place du trône. En avant !» Médor comprit et enleva la pauvre Gloriette, qui ne résistait plus. Monsieur Picard et Monsieur Rioux, les deux agents, avaient disparu. La procession continua sa marche. À mesure qu'on approchait de la rue Lacuée, l'intérêt des passants augmentait. Sur la place Mazas, le convoi se recruta de tous les badauds rassemblés autour de la danseuse de cordes, qui est là en permanence et dont Petite Reine était une cliente assidue. La danseuse de cordes vint elle-même avec ses trois petites filles et ses trois petits garçons, qui ne se ressemblaient point entre eux. La Gloriette sembla frappée. Elle regarda attentivement la famille de la saltimbanque et murmura « Sont-ils bien à elle, tous ces enfants ?»« Les mamans sont sorcières, » dit le sergent. « On va éplucher le trône. En avant, en avant !» Mais c'était maintenant des voisins qui se présentaient sur la route, des gens que Lily voyait tous les jours et qui tous les jours arrêtaient Petite Reine pour avoir un baiser ou un sourire. « Est-ce bien vrai, est-ce bien vrai? Elle était si mignonne ce matin en partant pour la promenade. Elle se tenait si droite, elle tournait si bien ses jolis pieds en dehors. Elle m'a dit bonjour en passant. Elle riait, elle chantait. « Ils me l'ont prise, » répondait la Gloriette. « Je suis toute seule, je n'ai plus rien. C'est bien vrai, c'est bien vrai. »
« Il faut que ce soit celle-là pour la première fois que ça m'arrive, » ajoutait la bergère, qui pleurait aussi sous son grand chapeau de paille.
« Une enfant si connue. Ah, mon commerce est flambé. Je n'ai plus que l'hôpital. »
Pour le fait, Mère Noblet n'eut pas besoin ce soir-là de reconduire ses brebis à domicile. Tout le long du chemin, on put voir les parents qui venaient, l'un après l'autre, reprendre leurs enfants sans maudire et les emporter comme une proie. Quand on arriva devant la maison du commissaire de police, la bergère n'avait plus de troupeau. Elle croisa ses mains sous son vieux châle et lança à Lily un regard plein de rancune en disant « Et c'est elle qu'ils plaignent !» On la fit entrer au bureau de police, sur les pas de la Gloriette, qui gardait maintenant le silence, affaissé dans sa douleur. Une douzaine de témoins, choisis un peu par hasard, furent introduits et la grande masse de l'attroupement resta dehors. Le milord, comme on persistait à l'appeler dans la foule, cet étranger qui avait le teint d'un sang mêlé, était déjà dans le cabinet du commissaire, avec les deux agents et un sergent de ville. Dans la pièce d'entrée où se tenait le secrétaire, on donna une chaise à Lily, près de qui Médor restait comme une sentinelle. « Ça fait pique une émeute, » dit le second sergent de ville au secrétaire. « Depuis 12 ans que je suis dans la partie, jamais je n'ai rien vu de pareil. Cette bichette-là, c'est comme si on avait enlevé une princesse. » Le secrétaire, attentif, ayant mis la plume à l'oreille, il fallut pour la 100e fois entamer le récit détaillé de ce qui avait eu lieu. Lily pleurait silencieusement. La bergère ponctuait les phrases en disant « C'est moi qui en pâtirai, moi toute seule, vous verrez. » Dans le cabinet voisin, il n'y avait plus personne que le milord, assis auprès du commissaire de police qui l'écoutait avec une respectueuse déférence, gardant à la main une large carte sur laquelle étaient inscrits ses noms et qualités. Hermann Maria Gérez de Guarda, duc de Chaves, grand de Portugal de première classe, envoyé de sa majesté l'empereur du Brésil. Le duc de Chaves parlait lentement et avec une extrême difficulté, mais vis-à-vis du magistrat, il avait repris tout naturellement le ton qui convenait à sa dignité. « Pour des motifs qui me sont personnels, dit-il, je m'intéresse à l'enfant et à la mère. J'aurais pu tout à l'heure réparer le mal rien qu'en étendant la main, car le hasard m'a placé sur le chemin de la misérable créature qui a détourné l'enfant, mais la peine que j'ai à parler votre langage, mon désir de garder l'incognito, et encore une circonstance qu'il me plaît de ne point mentionner, tout cela joint à une certaine timidité et produite par mon ignorance de vos usages et de vos mœurs, je suis à Paris seulement depuis 1 mois, m'a empêché de parler et d'agir. J'ai laissé échapper l'occasion et j'en ai un regret mortel, car les larmes de cette malheureuse jeune mère m'ont percé le cœur. Tout ce que je puis faire, c'est de fournir le portrait exact de la femme qui a enlevé l'enfant. » Le commissaire de police prit la plume et écrivit, sous sa dictée, le signalement minutieux de Saladin déguisé en femme. « Monsieur le duc, dit-il, quand ce travail fut achevé, m'est-il permis d'interroger votre excellence ?»« Cela vous est permis, » répondit le duc de Chaves. « L'homme qui vous a introduit m'a dit que votre excellence avait parlé à la voleuse d'enfants. C'est la vérité. » « Il me serait utile de connaître les paroles échangées entre cette femme et votre excellence. » Le duc réfléchit quelques instants avant de répondre. « Ce qui a été dit entre cette femme et moi, déclara-t-il enfin, n'a aucun trait à l'affaire présente, sauf ma première question et sa première réponse. Je lui ai demandé « Où menez-vous cet enfant ?»« La petite, vous connaissez ?»« Oui, car elle m'a souri. La femme m'a répondu « Je suis gardienne chez Mère Noblet, la promeneuse, et je conduis petite reine au logis de son père où sa maman viendra la chercher. Est-ce tout ? Non, la femme a ajouté quelques mots qui ne regardent que moi et fait appel à ma générosité. » Le commissaire de police se mit la main devant ses yeux et enveloppa son interlocuteur d'un regard perçant. « Vous lui avez donné ? » prononça-t-il tout bas. « Oui, repartit le duc simplement, je suis très riche. » C'était une pure aumône. Sous le bronze de sa peau, le duc rougit. « Monsieur, dit-il, au lieu de répondre et avec un visible embarras, dans mon pays, il est possible d'activer les recherches de la police avec de l'argent. » En France, répliqua simplement le commissaire, les magistrats regardent toute offre d'argent comme la plus grave des insultes. Le duc s'inclina, puis se leva.
« Je suppose bien pourtant, continua le commissaire, que votre excellence n'a point voulu outrager un honnête homme qui ne lui a jamais fait de mal. Je suppose encore, ou plutôt je suis certain, que votre excellence a des motifs tout charitables pour s'intéresser à cette affaire. » Peut-être y avait-il ici une toute petite pointe de moquerie, voilée sous la gravité respectueuse du débit. Le duc de Chavès se redressa. « Je parle ainsi, poursuivit encore le commissaire, pour entrer, autant que cela est possible, dans les idées de votre excellence. En France comme partout, l'administration emploie des subalternes. Ce sont même des subalternes qui cherchent et qui trouvent. Il est certain que l'argent met à leur disposition des moyens de trouver. Il est certain aussi que la perspective d'une récompense les encourage et les stimule. » Le duc de Chavès prit dans son portefeuille 2 billets de 1 000 francs qu'il déposa sur le bureau. « C'est trop, dit le commissaire en souriant, nous n'avons pas de mine d'or chez nous. Avec la moitié de cette somme, je ferai plus que le nécessaire, et il vous sera rendu compte de l'emploi de votre argent. » Il prit un des billets et écrivit quelques lignes sur un papier à tête imprimé qu'il présenta ouvert au noble portugais. J'engage votre excellence à se rendre sur le champ chez monsieur le chef de la sûreté à la préfecture, dit-il, en se levant à son tour. Ce mot servira d'explication, et là-bas, l'autre billet pourra trouver son emploi. Il salua respectueusement, et le duc prit congé. Aussitôt qu'il fut sorti, le commissaire sonna, et Picard entra. S'il y a quelque chose là-dessous, lui dit le commissaire, est-ce que la jeune femme est jolie? « Plus que jolie, répliqua Picard, elle est à croquer, malgré ses yeux rouges et ses pauvres joues pâles. Faites venir Rioux. » Rioux était un assez vilain bourgeois, mais un bel agent. Son profil affectait un peu la forme fuyante des têtes de levrette, mais en dépit de l'évangile phrénologique, il ne manquait pas d'intelligence. Il arriva tout soucieux. « Ce duc avait sa voiture à la grande grille, dit-il, quoiqu'il soit arrivé au jardin des plantes par la porte de la rue Cuvier. C'est drôle. » « Et la voiture a suivi au pas, derrière le monde, par le pont d'Austerlitz, » ajouta Picard. « Elle l'attend à la porte. » Le commissaire consulta sa montre d'un air égrillard. « Chacun a ses petites histoires d'amour, » fit-il en ramenant les faces de ses cheveux. « Ce sont des sauvages qui roucoulent comme des tigres là-bas. » « Celui-là n'a pas inventé la poudre. Je l'ai envoyé à la préfecture pour la règle, mais je ne serais pas fâché que le poteau rose fût découvert par nous. Attention, il y a prime. »« Le grand seigneur m'en avait l'air, » répondit Picard. « Je suis resté pour cela. » Rioux étendit les 5 doigts de sa maigre main. « Preux, » dit-il, comme les enfants au jeu, « j'ai un truc. »« Moi aussi, » s'écria Picard. « Écrivons. » Ils saisirent à la fois leur carnet, qui ne brillait pas par la propreté, et tracèrent 1 ou 2 lignes au crayon. Le commissaire lut d'abord le truc du brigadier et dit « Pas mal ». Il jeta les yeux sur celui du sergent de ville et se prit à rire. « Le même, » fit-il, « ex aequo. Ce doit être bon. Carte blanche et 100 francs de mise en train pour les frais. 500 gagnants. Adieu va. » Rioux et Picard se précipitèrent dehors. Le commissaire avait lu sur leur carnet la même phrase, écrite lisiblement, avec des orthographes diverses, mais également fautives. « Faire aujourd'hui même l'épluchage de la foire au pain d'épices. » Rioux et Picard montèrent fraternellement en fiacre, place Mazas, car il s'agissait de se hâter. « Ma vieille, dit Rioux, la prime ne nuit pas, mais j'y mettrai du mien pour retrouver la petiote. » « Rapport à la jeune dame, » répliqua Picard, « compris, le sentiment, je le partage. Et on va y aller comme des tigres, pas vrai ? Ah, l'œuf, mêle-t-on ? On mêle, au galop cocher !» Saladin ne se doutait guère d'être serré de si près. Il ne savait pas que l'ennemi allait l'attendre dans ses propres quartiers. Il avait manœuvré comme un ange, et nous ne pouvons nous dispenser de donner au lecteur le détail de son expédition, en faisant toutefois observer qu'il était bien jeune. On ne peut pas demander la perfection à la 14e année. Plus tard, il devait se comporter mieux encore. Les enfants sont conduits par de singuliers caprices, et Petite Reine avait les défauts de ses qualités. À force d'être sociable et gentille avec le monde, elle arrivait à être un peu banale, toujours prête à prodiguer ses caresses pour faire naître ses sourires d'admiration qui partout l'accueillaient.
Elle aimait son succès, il lui fallait sa vogue, et la Gloriette, hélas, n'avait pas peu contribué à exalter ce besoin d'être adulée. Les murmures d'admiration que soulevait le passage de l'enfant bijou, c'était la vie, c'était le bonheur de la pauvre Gloriette. Au jardin des plantes, quand pour la première fois le regard de Petite Reine était tombé sur Madame Saladin, l'impression avait été une vive répugnance et un mouvement de frayeur instinctive. Le voile bleu, pendu au béguin surtout, lui faisait peur. Sans le hasard qui avait permis à Madame Saladin de montrer son talent pour tourner la corde, l'impression aurait eu de la peine à s'effacer. Mais Petite Reine avait été applaudie grâce à cette vieille qui avait mis son voile bleu, et bientôt après, cette même vieille lui avait donné un sucre de pomme. Petite Reine était gourmande, presque autant que coquette et amie des bravos. La connaissance fut faite. Quand arriva la bagarre que nous avons amplement décrite, Madame Saladin trouva moyen de placer la foule entre Petite Reine et le troupeau. Elle lui donna le bonhomme en pain d'épices qui enchanta l'enfant et détourna son attention pendant 2 grandes minutes. C'était plus qu'il n'en fallait. Madame Saladin, qui déjà gagnait au large vers l'extrémité du bosquet, saisit tout à coup Petite Reine dans ses bras en disant d'une voix étouffée « Ah, prends garde, prends garde, les lions sont échappés, vois comme les demoiselles de la communion se sauvent !» Il y avait en effet un mouvement de foule, et les communiantes s'éloignaient. Petite Reine épouvantée regarda et vit les lions. Les enfants voient tout ce qu'ils craignent et tout ce qu'ils désirent. Elle mit sa tête dans le sein de Madame Saladin, qui se prit à courir en disant « Ah, n'aie pas peur, je les tuerai s'ils veulent te faire du mal !» Petite Reine se serrait de toutes ses forces contre sa protectrice, qui s'arrêta dans l'allée des Robignats, où elle entama un tout autre genre de travail. « Est-ce que tu ne te souvenais pas de moi ?» demanda-t-elle. Justine découvrit sa jolie petite figure pour la regarder avec étonnement. La prétendue vieille marchait toujours, mais moins vite, pour ne pas éveiller les soupçons. Les communiantes étaient dépassées. « Et les lions ?» fit l'enfant. « Ils sont enchaînés, on les a repris. Mais retournons à Mère Noblet, alors. »« Nous y allons, tu vois bien, » fit Madame Saladin, qui tourna l'angle de la grande allée du milieu. « Mais non, » repartit Justine, cherchant à s'orienter, « c'est là-bas qu'est Mère Noblet, sous les arbres. » « Est-elle drôle ! » s'écria la vieille en la mangeant de baisers. « Elle veut savoir ça mieux que moi. Alors tu m'avais tout à fait oublié, petitiote ?» Elle lui fourra un biscuit entre les dents. « Ah, le joli petit ange !» dit un groupe de dames à hauteur de la fosse aux ours. « Voyez donc cet amour !» Petite Reine fut aussitôt distraite et envoya aux dames un beau sourire avec un baiser. Saladin la mit à terre et lui dit à l'oreille « Fais-leur voir comme tu marches bien !» Et l'enfant, reprenant aussitôt son rôle de petite merveille, marcha en se tenant droite, en balançant sa crinoline bouffante et les pieds bien en dehors. « Pour ta peine, reprit Saladin qui passa la porte du jardin zoologique, je vais te montrer les gros moutons et les cocottes qui sont dans l'eau. C'est étonnant comme les enfants oublient. Te souviens-tu de petit père au moins ?» Justine s'arrêta court, ouvrit ses grands yeux qui interrogeaient. « Viens, continua la prétendue vieille, c'est moi que tu appelais Bobonne en ce temps-là. »« Quand donc ? » interrompit l'enfant, dont la curiosité s'éveillait. « Viens, au temps où tu étais bien riche, hein, tu dormais dans un berceau tout plein de dentelles. »« Mère m'a dit cela, » murmura l'enfant. « Ah, tous les matins et tous les soirs, tu pries le bon Dieu pour petit père, pas vrai ?»« Ah, je crois bien, ah, comme tu vas vite !» voici les cocottes, annonça Madame Saladin, arrivant au parc des oiseaux aquatiques. Est-elle laide, celle-là qui se tient sur un pied avec son bec pointu? Oh, regarde, seras-tu content quand tu vas revoir petit père? Justine sauta de joie. Est-ce que c'est aujourd'hui? S'écria-t-elle. Saladin la reprit dans ses bras, car il était sur les épines. Le temps passait, d'une minute à l'autre, on pouvait le poursuivre. « Écoute, dit-il en baissant la voix, il y a des méchants, des bien méchants, qui empêchent ton petit père de demeurer avec ta petite mère. Tu étais trop petite, on ne pouvait pas t'expliquer cela. » Justine fit un signe d'intelligence, elle était tout oreille. « Alors, continua Saladin qui pressait le pas, petite mère m'a dit, « Bobonne, il faut que le père la voie. Quand il l'aura vue, si mignonne, si jolie, avec ses joues roses, ses cheveux blonds et ses yeux bleus,
Et mes belles bottines, ajouta Petite Reine. Et ses belles bottines et son toquet à plumes, alors il voudra la voir toujours.
Mais, voulut objecter l'enfant, mère Noblet.
Attends donc. Alors Petite Maman a fait mine de s'absenter aujourd'hui.
Pourquoi?
À cause des méchants. Et si nous en rencontrons des méchants, prends bien garde, il faut rire et m'embrasser très fort. On peut en trouver plus d'un avant la maison, tout en or, où est petit père, dans la ville des nobles et des riches.
Vaguement, Justine avait peur, mais ce n'était rien auprès de l'idée de petit père et de sa maison tout en or.
Comment sont-ils faits, les méchants? Demanda-t-elle.
Ils sont noirs et d'autres couleurs, alors tu comprends.
Petite maman a été en avant.
Chez papa, s'écria Justine, qui battit des mains dans sa joie.
Juste, chez petit papa chéri, elle nous attend.
Ils avaient traversé tout le jardin zoologique et sortaient par la petite porte de la rue Cuvier. Justine ne faisait plus attention à rien, sinon à ce conte de fées où elle jouait un rôle.
Madame Saladin, triomphant à la vue de ses tissus qui étaient pour elle le port, prit dans sa poche son dernier biscuit et le mit entre les lèvres de Petite Reine.
Mais c'est au port qu'on échoue souvent. Au moment où Saladin venait de dépasser le factionnaire, il se trouva face à face avec une figure de connaissance, l'homme au teint bronzé qui, la veille au soir, était entré sur les pas de la Gloriette dans la baraque de Madame Canada.
Saladin ne s'attendait pas à cela. Au premier instant, sa terreur alla jusqu'à l'angoisse.
« Tu trembles ?» lui dit Justine, effrayée.
« C'est un méchant, » balbutia Saladin.
« Alors il faut rire et s'embrasser !»
Et Petite Reine couvrit de baisers la fausse bobonne en ajoutant
« C'est vrai qu'il est tout noir !»
Le duc avait reconnu Petite Reine du premier coup d'œil. Nous savons qu'un soupçon était né en lui et qu'il avait interrogé Madame Saladin. Nous savons aussi la réponse de Madame Saladin. Il nous reste à dire le surplus de l'entrevue, ce que Monsieur le Duc avait refusé de confier au commissaire de police.